9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1, on fait le tour de la question jusqu'à 11h. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec un débat de santé pour commencer ce matin, je vous demande si vous êtes adepte de l'homéopathie. Pour quels maux et quelles pathologies vous utilisez ces produits en accord avec votre médecin peut-être, qui pourraient ne plus être remboursés par la Sécurité sociale d'ici à la fin du mois. On attend la décision de la Haute Autorité de Santé et on verra ce qu'elle sous-entend d'ailleurs et quelles querelles sont encore en jeu 200 ans après l'apparition de l'homéopathie dans nos types de traitement. Nous serons notamment accompagnés d'un médecin homéopathe, d'un représentant des pharmaciens, d'un spécialiste de l'histoire de la médecine. Usagers, patients, venez vous parler, nous parler de votre rapport à cette médecine douce que certains qualifient comme telle. On vous attend, vos témoignages sont les bienvenus, Julie.
Au standard, le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, on s'intéresse donc à la manière dont on se crée des amis dès le plus jeune âge. Quels mécanismes sont en marche dans ces relations humaines qui expliquent ces connexions et ces alchimies finalement? En quoi l'amitié nous rend-elle meilleure? Et bien là encore, des spécialistes viennent nous parler et vous témoigner. On vous attend également sur les réseaux sociaux.
Avec le hashtag Europe 1.
C'est parti jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et j'imagine que les utilisateurs vont être très concernés par cette émission et par l'actualité qui lui est liée, car cette haute autorité de santé s'interroge sur l'opportunité et l'efficacité des traitements homéopathiques et rendra donc sa décision dans quelques jours en la matière. Si l'efficacité n'est pas suffisamment prouvée, les traitements pourraient cesser d'être remboursés. Bonjour docteur Daniel Simeka.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans le Val-de-Marne, président de la Fédération française des sociétés d'homéopathie et dans quelques jours, les lecteurs pourront découvrir en librairie aux éditions du Rocher votre livre « Homéopathie, l'évidence ». Évidence qui n'est pas manifeste pour tout le monde parce que ce débat est ravivé de nouveau par cette décision de la Haute Autorité. Si les médicaments homéopathiques ne sont plus remboursés, qu'est-ce que ça peut créer pour vous dans l'esprit des consommateurs et des usagers?
Surtout pour les patients, ce que ça peut créer avant tout, c'est une grande déception et une grande humiliation. Quand on sait que 3 Français sur 4 sont favorables, en tout cas sont opposés à un quelconque déremboursement, qu'un Français sur 2 l'utilise de façon très régulière. Donc c'est avant tout une indignation, une frustration. Tout le monde est assuré social et tout le monde doit pouvoir avoir le choix de la manière de se soigner, surtout avec des médicaments qui présentent une innocuité totale et une efficacité reconnue, puisque la plupart des Français en sont satisfaits. L'autre conséquence, elle est économique. Et là, il faudrait quand même bien enfoncer le clou économique dans le mauvais sens, puisque les études socio-économiques qui ont été faites montrent que la plupart des patients continueront un petit peu à se soigner par homéopathie. Certains, un dernier sondage le montre, ont dit qu'ils arrêteraient de se soigner tout simplement parce qu'ils refusent, ce qui est un peu irrationnel d'ailleurs, toute autre façon de se soigner. Et puis, il y aurait un report. Et ce report, en termes de coût pour la santé publique, eh bien, il serait négatif. C'est-à-dire que ça coûterait plus cher, d'abord pour l'achat des médicaments, et deuxièmement, ça coûterait plus cher en termes d'effets secondaires, d'effets induits.
Mmh. Voilà, voilà quelles seraient les conséquences. Mais puisque vous parlez de gros sous, le remboursement de ces produits homéopathiques coûte aujourd'hui 56-57 millions d'euros quand même chaque année à la Sécurité sociale pour une efficacité qui n'est pas prouvé. Et c'est tout ce qui fait le problème encore, et depuis 200 ans, je le disais, depuis l'apparition de l'homéopathie. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste, monsieur, de l'histoire de la santé et auteur de l'ouvrage notamment « Et Samuel Hahnemann inventa l'homéopathie ». C'est en effet l'inventeur de ce type de thérapie. La question de l'efficacité depuis l'apparition de l'homéopathie s'est-elle toujours posée en ces termes?
Oui, dès l'apparition de l'homéopathie, elle a à la fois provoqué des enthousiasmes de la part de ceux qui ont suivi Samuel Hahnemann, mais aussi elle a suscité d'emblée des réactions de rejet. Mais il faut quand même bien savoir que les relations entre l'homéopathie et le reste de la médecine sont quand même très ambivalentes et très ambiguës. C'est pour ça en particulier que je refuse de parler de médecine parallèle, dans la mesure où ces médecines et le reste de la médecine passent leur temps à se croiser, et l'homéopathie est née au sein de la médecine de l'époque et non pas du tout en dehors de la médecine.
Donc c'est pour vous une forme de médecine, l'homéopathie, clairement ?
Oui, enfin disons, son problème, c'est que quand elle est née, elle était en plein dans la médecine qui était la médecine d'observation, puisque les principes de l'homéopathie reposent sur les observations qu'avait faites Hahnemann.
Oui.
Et ce qu'on lui reproche assez souvent, c'est d'être resté au stade où elle était au moment où elle est apparue.
À l'époque, elle est pratiquée au XVIIIe siècle essentiellement par des personnes qui ont envie de sortir justement de la médecine conventionnelle, qui est parfois un peu trop brutale, un peu trop agressive. On cherche des méthodes alternatives justement qui altéreraient moins la santé.
Pas forcément, mais disons que ce qu'il y a au moment où Hahnemann met au point son système, en même temps que beaucoup d'autres, autour de la phrénologie, l'étude des crânes, autour du fluide, autour du magnétisme, c'est effectivement une époque dans laquelle la médecine sait décrire les maladies, elle sait les identifier, elle sait d'où elles viennent, mais elle ne sait pas les guérir. Et donc il y a une recherche éperdue d'une thérapeutique qui soit à la fois plus efficace que celle qui était utilisée, et en même temps, l'avantage de l'homéopathie à l'époque, c'est que c'est une thérapeutique qui repose sur un principe, alors que le reste des thérapeutiques, très souvent, étaient utilisées plus ou moins au petit bonheur la chance, et on utilisait à la fois des potions drastiques, ou des saignées, ou des choses comme ça.
Et c'est quoi le principe de l'homéopathie de base ?
Eh ben, c'est le principe de la similitude, c'est-à-dire que la substance qui produit la maladie peut aussi, à condition d'être utilisée à dose très faible, guérir la même maladie.
C'est comme un vaccin finalement, c'est le même système.
Je ne sais pas si c'est vraiment comme un vaccin, mais c'est un principe du reste qui n'était pas complètement nouveau dans la mesure où dans Hippocrate, il y a aussi des choses sur la loi des semblables et qu'on connaît aussi le phénomène de mithridatisation,
oui,
qui est le fait que si on a sa coutume à prendre des poisons à dose très faible, on peut être immunisé contre l'effet de doses plus élevées.
Soigner le mal par le mal, c'est ça ?
Voilà, c'est tout
c'est
à fait ça.
C'est ça le principe de l'homéopathie.
Voilà, c'est les simila similibus curantur, c'est-à-dire que les semblables sont soignés par les semblables.
D'accord, mais à dose infinitésimale. C'est aussi ça, docteur, le principe, vous qui êtes médecin homéopathe de
l'homéopathie. Sur ce que vous avez dit en posant votre question, l'efficacité n'est pas prouvée. Ça, c'est ce que disent nos ennemis.
Oui, et on va y venir, au profit de vos ennemis.
Oui, tout à fait. Mais je voudrais tout de suite préciser que c'est absolument faux. C'est-à-dire qu'une lecture...
elle n'est pas prouvée scientifiquement, mais elle est prouvée par ceux qui l'utilisent.
Non, elle est prouvée scientifiquement. D'accord. Les études existent sur tout un tas de domaines. Est-ce que la loi de similitude est valable ? Est-ce qu'il y a une efficacité de certains médicaments dans certaines pathologies ? Et est-ce que dans la vraie vie, la pratique clinique de l'homéopathie est efficace ? Il y a des études qui le montrent.
Je sais bien qu'on a tendance... n'ont pas lu vos confrères, manifestement.
On a tendance à faire un petit peu des raccourcis en disant « Ah oui, la pauvre homéopathie, les gens l'aiment bien, et puis elle n'est pas scientifiquement prouvée. » C'est vraiment une mauvaise information, parce que c'est ce qu'utilisent nos adversaires, qui souvent ont quand même un niveau de connaissance de l'homéopathie assez médiocre, et qui souvent n'ont pas lu les études.
Ils considèrent que c'est de la fausse médecine pour eux.
Oui, mais ils n'ont pas lu les études. On nous demande depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans de faire des études. Ces études se sont accumulées, elles se sont améliorées, mais elles existent.
Et moi, je vais vous redonner la parole, messieurs, dans un instant, en commençant par vous, Daniel Simeka, parce que vous êtes médecin généraliste, médecin homéopathe. Vous avez fait ce choix aussi d'associer ce traitement, cette discipline, on va dire, à vos études classiques que vous partagez avec vos confrères qui, aujourd'hui, vous jettent la pierre. On est d'accord.
Bon. Tout comme un généraliste qui aurait fait un diplôme de psychologie ou autre chose.
D'accord.
On a tous nos dadas.
Eh bien, on y vient.
Et le mien, c'est l'homéopathie.
Avec vous qui publiez la semaine prochaine Homéopathie, l'évidence. Un Français sur deux l'utilise et il a raison. C'est votre cri du cœur. Si c'est votre cas, chers amis, n'hésitez pas à nous appeler, vous témoigner et cela va nous éclairer jusqu'à 10h, Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps. Europe 1. L'avenir pour l'homéopathie. On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Le standard est pour l'instant calme, mais sur les réseaux sociaux, ça commence à largement s'agiter. Nous avons commencé l'émission à 13 minutes et j'ai déjà une vingtaine de messages. Marlène Bouvier nous écrit « Oui, l'homéopathie marche, ça m'a permis de me passer des anxiolytiques et de traitements hormonaux très lourds. Si l'autorité de santé était suffisamment couillue, nous dit Pat et honnête, il y a longtemps que l'homéopathie serait déremboursée, ras-le-bol de payer cette charlatanerie avec mes cotisations sociale. Alors ça vous fait réagir, messieurs. Olivier Faure, spécialiste de l'histoire de la santé, auteur de « Et Samuel Hahnemann inventa l'homéopathie ». Et surtout vous, docteur Daniel Simeka, parce que quand on vous traite de charlatan, j'imagine que vous avez fait combien d'années d'études ?
Eh bien, les mêmes années que les autres.
C'est-à-dire 7, 8 ?
À l'époque, 7 ans.
Oui.
Et puis ensuite, effectivement, je me suis formé en homéopathie, donc c'est encore quelques années.
Voilà, donc...
Et puis toute une carrière, parce qu'on continue de progresser sans arrêt.
Donc, vous traiter de charlatan doit vous faire réagir, j'imagine.
Absolument. Enfin, moi, les bras m'en tombent. Je trouve que le niveau d'attaque est d'une médiocrité et d'une indigence absolument totale. Il y a un principe de confraternité. Si les gens qui nous jouent le plus scientifique que moi, tumeur, étaient de vrais scientifiques, ils seraient dans un débat scientifique, ils ne seraient pas dans des invectives, dans des caricatures. C'est extraordinaire de voir que depuis 50 ans, on est toujours dans l'histoire. C'est du sucre en poudre, c'est de l'eau.
On parle de l'effet placebo. Vous expliquez-nous justement la composition quand même de ces médicaments.
Enfin, oui. Pour un niveau scientifique, c'est un peu faible.
Mais pourquoi
même
on
si
en est arrivé là?
Faiblesse pour ces fraises-là.
Pourquoi on en est arrivé là à parler d'effet placebo? Parce qu'on dit que c'est de l'eau mélangée à du sucre. Comment fonctionne le principe du médicament homéopathique?
Alors, le médicament est préparé, comme l'a dit notre ami, par dilution et dynamisation, c'est-à-dire on prend la substance qui provoquerait des symptômes. Mm-hmm. Exemple, une racine d'aconite. L'année dernière, il y a eu, hélas, un décès d'un promeneur qui a ramassé une fleur d'aconite et qui l'a consommée, la confondant avec autre chose. Mmh. Eh bien, il y a une mortalité à dose moindre. Quand ça ne tue pas, ça provoque des symptômes cardiovasculaires, d'anxiété, etc. On prend cette même racine d'aconite, on la fait macérer dans de l'alcool, 15 jours, on obtient une teinture mère, et puis ensuite, on dilue et on dynamise, parce que c'est ça qui est important. Nos adversaires, quand ils sont malhonnêtes intellectuellement, c'est-à-dire souvent, ils disent juste dilution, alors qu'en fait, entre chaque dilution au centième, il y a une dynamisation, c'est-à-dire qu'on secoue le tube un certain nombre de fois. Les derniers travaux montrent que cette dynamisation est essentielle puisqu'elle crée des nanobulles autour de particules de silice qui gardent l'information et qui gardent la substance d'origine. Et c'est pour cela que plus on dilue et on dynamise un médicament, par exemple cette racine d'aconite, plus on va avoir une efficacité clinique sur les mêmes symptômes, c'est-à-dire cardiovasculaire, des palpitations, de l'angoisse, enfin les symptômes.
Bon, on a vraiment l'impression de prendre des petites boules blanches qui sont les mêmes ou de l'eau sucrée, mais c'est très très élaboré. Hein, d'après
c'est
ce qu'on
un médicament qui repose sur l'information et pas sur la présence à forte dose d'une substance comme en pharmacologie classique. C'est pour cela que ça a toujours fait des nœuds au cerveau. C'est normal au départ, on se dit non, il ne peut pas y avoir de trucs là-dedans, etc. Et c'est parce qu'on s'y intéresse et qu'on s'y intéresse de façon honnête, c'est parce qu'on lit les études, vous savez, on dit il n'y a pas d'études, vous allez sur PubMed qui est quand même le site internet international de toutes les études scientifiques médicales, et sur PubMed des études sur l'homéopathie, il y en a plein, certaines sont négatives. Certaines, mais la plupart sont positives.
On parlera du négatif parce qu'on dit « je prends de l'homéopathie, ça ne fait pas de mal ». Certains de vos détracteurs reprochent justement à l'homéopathie parfois de retarder les traitements qui seraient plus agressifs.
Une étude montre le contraire.
Bon, on va y revenir.
L'étude
parce que là encore, c'est partagé.
Montre qu'il n'y a pas de perte de chance.
D'accord. Pourquoi, Olivier Faure, on ne peut pas compagnonner finalement, avoir des médecins généralistes homéopathes, d'autres médecins, puis que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est la liberté de choisir son praticien. Aujourd'hui, il y a vraiment une querelle qui est ravivée à chaque
oui,
fois.
Oui, alors en fait, cette querelle est une querelle très ancienne, mais comme je le disais tout à l'heure, les relations entre les médecins non homéopathes et les homéopathes sont ambivalentes. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois cette hostilité qu'on revoit aujourd'hui, et on a l'impression, quand on prend un peu de recul historique, qu'on rejoue exactement aujourd'hui, avec les mêmes termes, un débat qui a eu lieu entre 1810 et 1835, ce qui est quand même assez sidérant pour l'historien, que rien n'a changé, que les invectives de charlatans sont à nouveau effectivement mobilisées. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à une époque et encore aujourd'hui, il y a très souvent un accord tacite entre les homéopathes et les non-homéopathes. En particulier dans l'entre-deux-guerres, on s'était aperçu que la médecine qui analysait la maladie uniquement comme l'effet d'agents extérieurs infectieux était finalement insuffisante, qu'il fallait tenir compte aussi des réactions de l'individu. Et qu'il y a eu de la part de grands médecins qui étaient au centre du système dans la période de l'entre-deux-guerres, une volonté d'associer l'homéopathie et le reste de la médecine.
D'accord.
Chose qui continue un peu à exister, puisqu'on sait quand même qu'une bonne partie des généralistes qui ne sont pas homéopathes n'hésitent pas à prescrire des médicaments homéopathiques à leurs médecins.
Et c'est ça qui est très intéressant avec vous, Daniel Simeka, c'est que vous êtes médecin généraliste, donc vous savez prescrire des médicaments, des antibiotiques conventionnels, j'allais dire, et puis aussi faire du sur-mesure. C'est ça qui est différent aussi avec le médecin homéopathe, c'est qu'il étudie précisément le traitement qui peut correspondre à l'individu, avec un spectre peut-être moins large.
Absolument, mais je pense que ça doit être le cas de chaque médecin. Chaque médecin raisonnable doit personnaliser son traitement.
Mais est-ce que l'homéopathie le permet davantage ?
Alors, l'homéopathie est hautement spécifique du patient. Mmh. Et c'est à la fois notre gros avantage, puisqu'on a une qualité d'écoute et un traitement en profondeur du terrain personnel de chaque personne, de chaque individu. Mais en même temps, c'est un petit peu notre faiblesse, puisque les études scientifiques que l'on fait, dans ce que on appelle l'evidence-based medicine, repose toujours sur la statistique, sur les grands nombres et sur un espèce d'individu moyen que personne n'a jamais rencontré. Moi, je n'ai jamais soigné en 35 ans de carrière.
C'est pour ça que vous avez un problème de mode d'évaluation.
Et ce que nous réclamons, c'est un mode d'évaluation qui respecte la spécificité du médicament homéopathique.
Bien, on va y venir. En attendant, Brigitte nous écrit de Saint-Brévin-les-Pins. Homéopathie, j'en suis férue. Je suis allergique à beaucoup de médicaments. Je prends donc ces médicaments et homéopathiques, ça me fait beaucoup de bien. Ainsi que Marc, Yvette, André qui arrivent au standard, qui pour l'instant sont tous pro-homéopathie. Donc si vous êtes signataire, notamment amis médecins de la tribune Fake Médecine, Fausse Médecine, n'hésitez pas à nous dire quels sont vos arguments sur le sujet, qu'on comprenne mieux cette querelle que vous avez mise de nouveau en évidence, Olivier Faure, en tant que spécialiste de l'histoire de la santé. A tout de suite, ma chère Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Apparu à la fin du XVIIIe siècle, les granules d'homéopathie sont aujourd'hui plébiscitées par 3 Français sur 4. C'est beaucoup, 3 Français sur 4. Nous parlons de l'efficacité ou non de cette médecine douce. Wendy Bouchard.
Nous sommes avec nos invités, Daniel Simica, médecin généraliste, auteur de l'homéopathie, l'évidence. On comprend bien qu'en tant que médecin homéopathe, vous soutenez l'opportunité et l'efficacité de ce type de médecine ou de traitement, du moins. Olivier Faure est avec nous, spécialiste de l'histoire de la santé, professeur émérite d'histoire contemporaine aussi à l'université de Lyon Saint-Étienne. Docteur Daniel Simica, il y a un patient qui vient vous voir, vous décidez après avoir conversé avec lui pour le ou la comprendre, de lui administrer un traitement homéopathique. Si ce traitement n'a pas d'effet, combien de temps attendez-vous pour changer de traitement et pour lui donner à ce moment-là des produits conventionnels, des médicaments classiques ?
Mais le temps d'attente, c'est le même que pour n'importe quel médecin. Quand un traitement ne marche pas, on revoit sa copie, on se remet en cause. D'abord, je voudrais dire que la pratique de la médecine, ça suppose que quand le patient est dans la salle d'attente, je ne sais pas encore, il n'est pas encore rentré dans mon bureau, je ne sais pas encore si je vais lui donner de l'homéopathie ou pas. La médecine, c'est une seule chose et donc on ne peut pas être homéopathe exclusif. On prescrit chaque fois qu'on le peut parce que c'est efficace davantage en profondeur sur le terrain et parce que c'est surtout d'une innocuité totale, préférentiellement de l'homéopathie.
Donc là, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Ceux qui disent ne se soigner qu'à l'homéopathie peuvent se mettre en danger à certains égards.
Alors oui, c'est un phénomène, vous savez, qui diminue. Il y a la sociologie des gens qui ont affaire à l'homéopathie. Moi, je suis installé depuis 35 ans. Au début de ma carrière, il y avait des gens qui étaient alors d'une homéopathicité, si je puis dire, absolument pleine et complète, presque idéologique. Et de plus en plus, on voit, même ça existe toujours un petit peu, mais on voit des gens qui sont dans le pratico-pratique, des mamans, des papas qui viennent, voilà, ça marche sur le gamin, il fait moins de rhinos, il fait moins de ceci, il fait moins de cela, ou on dort mieux, ou on a moins mal, et des gens qui sont davantage dans le pragmatisme. Et c'est plus rafraîchissant parce qu'effectivement, vous avez raison de le signaler, à un moment donné, il ne faut pas s'entêter. La palette thérapeutique est large. Quand on est homéopathe, quand on est formé en homéopathie, on est homéopathe en plus et pas en moins.
Donc vous êtes médecin avant tout, c'est ce que vous voulez dire.
Bien sûr, oui. Et moi je prescris des antibiotiques.
C'est ça, donc
j'espère
si ça ne marche pas, il ne faut pas s'entêter et vous donner des médicaments classiques ou des antibiotiques aussi.
Évidemment.
Bon, Paul est avec nous au Standard Europe 1. Donc j'ai une kyrielle de pro homéopathie au Standard. Vous faites partie des anti, ou en tout cas de ceux qui sont un peu suspicieux, cher Paul. Bonjour.
Oui, bonjour. Là, d'abord, je ne sais pas si l'homéopathie soit toutes les pathologies. Quand on a un cancer ou quand on a un infarctus, je ne sais pas si ça soigne. Mais moi, j'ai eu de l'asthme, et un asthme très fort, puisque j'étais traité à la cortisone, et une grosse dose. Et j'en ai marre parce que c'était lourd, j'ai tenté l'homéopathie. Et je me suis rendu compte que c'était très contraignant parce qu'il y avait énormément de comprimés à prendre. Et au bout d'une semaine, j'ai laissé tomber. Je me suis remis à mon traitement normal et maintenant, ça va mieux.
Oui, alors Paul, je vais réagir tout de suite avec Dr Simeka sur votre propos. L'homéopathie ne soigne pas tout. On est bien d'accord, Paul parlait des cancers. On ne soigne pas un cancer avec de l'homéopathie.
On ne soigne pas le cancer par homéopathie, mais on soigne le patient cancéreux par homéopathie. Pour son état général, pour son moral, éventuellement pour pallier aux effets secondaires des médicaments nécessaires. Mm-hmm. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le soin de support, l'accompagnement homéopathique autour d'une maladie grave. Oui, c'est parfaitement compatible et c'est très utile. Même beaucoup d'oncologues maintenant hospitaliers nous envoient les patients et conseillent aux patients d'avoir un traitement homéopathique en plus, bien évidemment, et pas évidemment pas à la place du traitement spécifique contre le
c'est
cancer.
C'est ce que nous dit alors, Aline de Saint-Aubin-les-Elbeufs. Elle a eu un cancer du sein en 2012 et décidé de se soigner en parallèle avec des homéopathies. Heureusement que les homéopathes étaient là, ça a été très efficace. C'est-à-dire que ça l'a soulagée à certains égards à côté de ces traitements classiques anti-cancer.
Oui, bien entendu. Mmh. Oui.
On peut donc associer les différentes formes de médecine ou de traitement.
On peut et on doit, c'est le bon sens.
Oui, Olivier Faure.
Oui, c'est effectivement, au moins à la période dans laquelle nous sommes effectivement dans une période de pluralisme thérapeutique, c'est-à-dire que les gens, vous et moi, nous utilisons effectivement les différents produits, les différentes thérapeutiques qui sont mises effectivement sur le marché. Mm-hmm. Et là aussi, je crois que c'est un petit peu excessif de laisser croire qu'il y aurait des gens. Il y en a quelques-uns, mais c'est une petite minorité qui ne se soignerait que par homéopathie et qui donc renoncerait aux autres thérapeutiques.
Non, après, il y a des gens qui laissent traîner en disant « moi, je ne veux pas de médicaments, je ne veux pas d'antibiotiques, je suis anti-tout ».
Il faudrait voir, mais enfin, ça reste une minorité. Certes, c'est celle dont on entend beaucoup parler, c'est celle peut-être que nous fréquentons dans nos milieux. Oui. Parce que si effectivement, il y a une généralisation du recours à l'homéopathie, il y a quand même un cœur du recrutement de la clientèle homéopathique et qui, là aussi, ça rejoint une tradition ancienne et essentiellement liée aux classes moyennes éduquées et qui, effectivement, sont à l'affût de toutes les nouveautés et de toutes les solutions non conventionnelles. On pourrait essayer d'étudier une sorte de parallélisme entre ceux qui se soignent en partie à l'homéopathie, qui votent écologistes, qui sont véganes, qui sont pour la cause animale. Je crois que ça, c'est tout un continuum qui explique aussi que l'homéopathie soit quelque chose qui est enraciné dans la société. Ce n'est pas une simple lubie, mais ça correspond à des aspirations sociales et culturelles, ce qui a déjà été le cas au début du 19e siècle, avec une liaison très forte entre l'homéopathie et tous les courants qu'on appelle les courants du socialisme utopique, et qui voulaient effectivement faire naître une nouvelle société. Et il y avait cette espèce de parallélisme, c'est-à-dire qu'à nouvelle société, il fallait aussi que corresponde une nouvelle médecine.
Ah, très intéressant.
Et donc c'était là aussi dans un continuum qui était particulièrement important entre les années 1810 et 1848.
Très intéressant ce profil aussi sociologique. Et je donnerai la parole dans quelques instants à Virginie, parce qu'on a beaucoup de parents qui nous appellent aussi et qui disent, voilà, en réaction en chaîne, soigner ainsi leurs enfants. Alors, est-ce que c'est bien? Comment on mesure? Voilà, justement, quand on équilibre ces traitements. Nous sommes avec le docteur Daniel Simeka et Olivier Faure qui s'expriment à l'instant pour parler de l'homéopathie. Vous êtes contre, n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Pour l'instant, que des pour au standard. Ça veut peut-être dire quelque chose. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Question Facebook du jour sur l'homéopathie. Est-ce que vous êtes adepte de l'homéopathie? Ben, on a une majorité de non, enfin, petite majorité, 66%. Alors évidemment, on a des messages, c'est de l'arnaque, comme le message de Bernard. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui défendent l'homéopathie. Pour traiter des maladies, non, car il faut des molécules actives. Sinon, pour soulager certains symptômes bénins, pourquoi pas? Après, il y a l'expérience. Si ça ne marche pas une fois, ce n'est pas la peine d'aller en acheter un deuxième. Ça, c'est le bon sens de Taujore. N'en déplaise aux grincheux, si l'homéopathie n'est pas un remède miracle, elle est une alliée de choix dans les traitements de fond. C'est mon cas pour des douleurs musculaires, signé Monte Cristo. Et puis d'autres qui disent bien heureusement que l'homéopathie existe. L'allopathie n'a pas de traitement pour tout. Je suis traitée en ce moment par homéopathie pour un eczéma allergique. C'est le seul traitement qui me réussit et qui me guérit, signé Kroll.
Et c'est incroyable parce que comme Kroll, la majorité des appels que j'ai au standard en ce moment, et vous êtes extrêmement nombreux, c'est rare, hein, c'est peut-être le record pour une émission, vont dans ce sens. Yves se soigne depuis 10 ans à l'homéopathie, il nous appelle de Meudon. Marie-Thérèse du Poinçonnet veut souligner que l'homéopathie fonctionne aussi avec les animaux. On ne peut donc pas parler d'effet placebo, docteur Simeka. Que répondez-vous à Marie-Thérèse qui va dans votre sens pour montrer cette efficacité? C'est-à-dire que les animaux ne ressentiraient pas l'effet psychologique et donc
absolument, ça traduirait l'efficacité du produit. C'est particulièrement vrai sur les animaux qui ne sont pas des animaux domestiques, parce que pour le chien et le chat, on peut toujours dire que quand on leur donne des granules avec amour, forcément, mais quand on traite des cheptels de volailles, de pintades, de poulets, pour tout un tas de raisons, souvent économiques, hein, pour éviter des hématomes, mm-hmm. de bagarres et autres, et quand on voit qu'il y a une efficacité sur un lot de volailles, c'est 15 000 têtes. Hein. Et donc, le médicament homéopathique, on ne va pas mettre un granule dans le bec de chaque bestiole. C'est forcément distribué au jet, sur la nourriture, etc. Et quand on voit qu'il y a une efficacité, on peut évidemment largement éliminer cet effet psychologique qu'on nous rabâche tout le temps. Vous savez, là, en médecine, tout ce qu'on ne comprend pas, on l'a toujours, je ne sais pas si notre ami historien me confirmera, mais on a toujours psychiatrisé l'inconnu. Mmh. Hein. Rappelons-nous qu'au début du XXe siècle, quand même, la maladie de Parkinson était placée dans la psychiatrie, parce qu'on ne comprenait pas. Puis après, on a découvert que c'était une maladie neurologique. Donc, voilà, l'effet placebo, non.
Bon, pourquoi parle-t-on d'homéopathie aujourd'hui ? Parce que d'ici à la fin du mois, la Haute Autorité de Santé pourrait procéder au déremboursement des médicaments homéopathiques au prétexte que l'efficacité ne serait pas reconnue. Le mode d'évaluation de cette efficacité se pose évidemment. Nous avons un collectif de médecins, une centaine de professionnels de santé, qui a fait remonter sa colère jusqu'à la ministre de la Santé. Voilà pourquoi toute cette histoire a été relancée. Vous dénoncez, et je suis très heureuse que vous soyez avec nous, Mathieu Calafiore. Bonjour.
Bonjour.
Vous dénoncez une fake médecine, une fausse médecine. Vous avez entendu cette émission depuis le TGV et je vous ai demandé de nous appeler au standard pour réagir aussi. Et pour qu'on comprenne votre colère, est-ce que vous reprochez aujourd'hui à vos confrères, parce que là, en l'occurrence, nous avons un docteur en studio, homéopathe. Docteur.
Alors, moi, ce que je reproche à mes confrères, c'est le fait de favoriser une croyance, en fait. Si vous posez la question aux patients, ils vont vous dire, à juste titre, qu'ils croient en l'homéopathie. On n'a pas besoin de croire en quelque chose, on a besoin de savoir si scientifiquement ça a été prouvé ou non. Et scientifiquement, l'homéopathie n'a jamais rien prouvé de mieux qu'un placebo, c'est-à-dire que vraiment le contenu des granules c'est du saccharose et du lactose et en gros il n'y a rien d'autre de plus dedans et ça marche uniquement parce que le patient qui prend quelque chose se convainc, il a une espèce de force d'auto-persuasion qui fait qu'il guérit grâce à ça. C'est un peu, je vais prendre un parallèle un peu léger, mais c'est un peu l'équivalent du bisou magique chez les enfants. L'enfant se fait mal, on lui fait un bisou magique. Il n'y a rien dans le bisou magique, on est bien d'accord, enfin, c'est un bisou des parents. Et l'enfant va quand même mieux parce qu'il a cette force de persuasion qui l'amène à guérir tout seul.
Et donc, docteur Calafiore, donc un bisou magique, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale pour vous parce que c'est dans la tête ?
Ben voilà, alors après, moi, si vous voulez, moi, la musique a cappella me fait beaucoup de bien, le chocolat noir me fait beaucoup de bien. Est-ce que vous allez me le rembourser parce que ça me fait du bien et que ce n'est pas nocif ? Je ne pense pas. Donc, ce qu'il faut, c'est rester très pragmatique sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mmh. Ce qui marche, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement et ce qui permet d'améliorer la qualité de vie du patient. Scientifiquement, l'homéopathie n'a pas été prouvée, même si des patients se disent mieux avec l'homéopathie, soit parce qu'il y a cet effet d'auto-persuasion, mais scientifiquement, il n'y a pas eu de preuve de ça. Donc, on ne peut pas se permettre de rembourser par la collectivité quelque chose qui n'a pas fait ses preuves. Il faut redéployer l'argent sur des choses qui ont fait leurs preuves. Je vais vous donner des exemples tout simples.
Allez-y.
Les consultations diététiques ne sont pas remboursées. Or, on sait très bien que la diététique chez les patients qui sont surpoids, par exemple, ça va permettre d'améliorer leur qualité de vie et de diminuer leur mortalité. Les consultations de suivi, de psychanalyse, de soins psychologiques, pardon, ne sont pas remboursées. Et on sait pourtant que ça fait du bien.
Donc, vous voulez, en fait, c'est un combat parce que vous considérez que ce remboursement des produits homéopathiques à hauteur de 56-57 millions d'euros par an, c'est au détriment d'autres traitements. Parce que, honnêtement, au standard aujourd'hui, je n'ai 98% d'appels, et ils sont très nombreux, d'hommes et de femmes qui trouvent que l'efficacité est avérée chez eux depuis des années avec l'homéopathie.
Mais clairement, en fait, ce qu'il faut qu'on dise à ces patients-là, c'est que si ça marche, c'est parce que leur corps se défend tout seul.
Et c'est mal.
Mais non, c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais s'il se défend tout seul, il se défendrait même sans les granules homéopathiques. C'est ça qu'il faut qu'on fasse passer comme message. Tout n'a pas besoin d'être solutionné par un médicament quel qu'il soit.
Alors,
la rhinopharyngite, l'angine virale va se soigner en une semaine si vous prenez des médicaments et va se soigner en une semaine si vous ne prenez pas de médicaments.
Docteur Simeka, est-ce que vous pouvez répondre à docteur Calafiore qui est avec nous, médecin généraliste?
Écoutez, mon cher confrère, c'est un exemple d'école. C'est mon confrère qui est dans la croyance. Il parle de croyance et si on était dans la cour de récréation, je dirais c'est celui qui le dit qui y est. Parce que, d'abord, il nous assène qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Encore une fois, ça n'est pas un débat entre scientifiques. Il ne me cite pas une étude pour la contester, sur sa méthodologie, etc. Il dit globalement, il n'y a pas d'étude qui montre que l'homéopathie est efficace. Donc, soit s'il est de mauvaise foi...
Si vous le voulez bien,
moi je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi terminer mon propos. Donc, à partir du moment où on dit il n'y a pas de preuve scientifique de l'homéopathie et qu'on ne discute pas, on est totalement dans la croyance. D'autre part, en ce qui concerne le remboursement, bien évidemment, des efforts diététiques, de l'encouragement, d'ailleurs, de l'exercice physique, enfin tout un tas de choses que le médecin peut faire, mais qu'effectivement, qui pourraient être remboursés pour d'autres professionnels de santé. Rappelons quand même des données économiques. Un tube d'homéopathie, c'est 2,35 €. Remboursé à 30%, 70 centimes. Moins 50 centimes de franchise médicale, ça fait 20 centimes. Vous parliez, moi j'avais pas le même chiffre, j'avais 80 millions d'euros, peu importe. Excusez-moi, je termine, on ne se coupe pas la parole si vous le voulez bien. 80 millions d'euros, c'est vraiment, évidemment, si c'est dans votre poche ou dans la mienne, c'est très cher, mais dans la poche de la Sécurité sociale, par rapport à 10 milliards d'euros pour les mésusages médicamenteux, le prix moyen d'un médicament non homéopathique, c'est 10 euros actuellement, contre 2,35 €.
Oui, on n'est pas tous sur les mêmes sommes. Oui.
Donc, voilà, d'ailleurs, économique, faut pas rigoler.
Je ferai réagir dans un instant le président de l'Union des syndicats de pharmacie d'officine, Gilles Bonnefond. Mot de conclusion pour vous, docteur Calafiore, qui nous appelait au standard.
Oui, alors, j'entendais parler de l'étude EPI 3 tout à l'heure. L'étude EPI 3 a montré une augmentation de la consommation des anxiolytiques chez les patients qui étaient suivis principalement par homéopathie. Donc, vous voyez, il faut l'interpréter aussi vraiment comme il faut. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on peut balayer aussi devant notre porte, entre guillemets, la porte des médecins conventionnels. On prescrit trop souvent, je suis bien d'accord là-dessus.
Oui.
Mais justement, il faut arriver sur une politique de prescrire moins, prescrire mieux, et savoir aussi ne rien prescrire quand il n'y a besoin de rien, que ce soit granules homéopathiques ou médicaments conventionnels.
Merci, docteur Calafiore. Voilà, vous retrouvez au moins sur ce sujet. Vous qui êtes généraliste et maître de conférences des universités à Lille, merci d'avoir écouté cette émission et pris la parole spontanément au standard. Je vais donner la parole, pour le coup, à André, à Virginie qui nous attendent, Bernard, Odette nous rejoignent, vous êtes très très nombreux, et Olivier Faure, vous allez tenter de nous éclairer un petit peu dans cette querelle de nouveau entre cette médecine homéopathique et cette médecine dont les médecins conventionnels parlent comme d'une fake médecine, une fausse médecine. À tout de suite, ma chère Julie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau. Europe 1. Le tour de la question sur l'homéopathie. On est ensemble jusqu'à 10h sur ce sujet. Wendy Bouchard.
En quelques secondes, Annie Cani, Bernard, Morissette nous rejoint au standard. Je vais vous donner la parole, chers amis. En attendant, je vous représente nos invités. Docteur Daniel Simeka, qui publie la semaine prochaine Homéopathie, l'évidence. Il est médecin généraliste homéopathe dans le Val-de-Marne et président de la Fédération française des sociétés d'homéopathie. On fait un petit peu le point aussi sur l'histoire de cette discipline, médecine alternative pour certains termes que vous réfutez, Olivier Faure, car cette médecine a compagnonné avec la médecine conventionnelle et elle en a des adeptes nombreux aujourd'hui. Vous nous parliez aussi de la catégorie sociale usagère de l'homéopathie aujourd'hui. Un mot sur ce que disait le docteur signataire de cette pétition anti-homéopathie, la croyance. Il opposait la science et la croyance. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu d'effet psychologique pour tout type de traitement? Peut-être pour aller mieux.
Historiquement, c'est une caractéristique de l'homéopathie, parce qu'en dehors effectivement de la mise au point des médicaments homéopathiques selon le principe de la similitude, c'est vrai qu'il y a aussi, dans la naissance de l'homéopathie, un côté un peu messianique, c'est-à-dire que Samuel Hahnemann se présente comme étant le prophète d'une nouvelle médecine qui, à ses yeux, devait remplacer l'ensemble de la médecine, mais c'est quelque chose qui était assez partagé à son époque, puisque c'était, comme l'a dit un littérateur, c'était aussi le temps des prophètes, où il y avait beaucoup de gens qui voulaient justement réconcilier la science et la religion.
C'est pour ça qu'on parle d'adeptes de l'homéopathie d'ailleurs.
Alors,
on parle d'adeptes un peu aujourd'hui.
On parle d'adeptes de l'homéopathie parce qu'effectivement aussi dans l'homéopathie, et au fur et à mesure qu'elle était attaquée, elle a eu tendance effectivement à devenir très minoritaire.
C'est ça.
Et comme souvent toutes les petites minorités, elles ont eu tendance à se diviser et qu'il y a eu effectivement des schismes, il y a eu des excommunications. Il faut dire que Hahnemann était un personnage charismatique, mais visiblement c'était quand même quelqu'un qui n'était pas commode. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a eu deux traditions dans l'homéopathie qui existent jusqu'à aujourd'hui. La première, donc, que le docteur vient de nous décrire, c'est effectivement celle qui ne soigne pas une pathologie ou des symptômes, mais qui soigne les individus après effectivement de très longs entretiens pour déterminer toutes les caractéristiques, toutes les habitudes de l'individu. Et il y en a une deuxième que je dirais un petit peu plus commerciale, qui est donc l'homéopathie, qui n'hésite pas à soigner au contraire uniquement les symptômes et les pathologies, même traitement pour tout le monde, et qui n'hésite pas non plus à mélanger dans ses produits plusieurs substances, contrairement à ce qu'était la pratique d'Hahnemann, au moins dans ces dernières années.
Avec des gros labos hyper puissants qui ont été reçus d'ailleurs il y a quelques jours par la Haute Autorité de Santé pour parler de cette efficacité, reconnue ou pas reconnue, qui pourrait avoir pour conséquence le non-remboursement à la fin du mois de ces médicaments homéopathiques. Je donne juste la parole, pardonnez-moi Olivier Faure, à Virginie qui nous attend. Vous nous appelez au 3921, chère Virginie, et vous êtes pour le coup très usagère d'homéopathie en famille. Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est quelque chose que vous pratiquez vraiment en famille? Les enfants sont régulièrement suivis par traitement homéopathique également chez vous?
Oui, tout à fait. En fait, j'utilise l'homéopathie, je dirais, en complément de la médecine classique. Un petit peu moins maintenant, puisque mes 5 enfants sont grands. J'ai surtout eu recours à l'homéopathie parce que mes 5 enfants ont souffert de reflux gastro-œsophagien nourrissons. Et à force de pathologie ORL liée au reflux, mes enfants souffraient d'otite à répétition. Les 5 nourrissons ont souffert de ça. Et surtout l'aîné, à force de prendre des antibiotiques mois sur mois, j'ai eu recours à l'intervention d'un chirurgien ORL homéopathe.
Oui.
Qui m'a tout de suite mis en sécurité, puisque si l'homéopathie ne fonctionnait pas, bien sûr, il pouvait intervenir au niveau des végétations et au niveau des drains pour les enfants.
Mais il vous a d'abord proposé ce réflexe homéopathique.
Je suis allée le voir pour ça, pour éviter d'avoir une médecine trop invasive sur les enfants et éviter d'enlever les végétations, les amygdales, etc. par rapport aux défenses immunitaires des enfants.
Ça a fonctionné sur vos enfants, Virginie?
Alors, ça a fonctionné pour 4 enfants sur 5.
Oui.
Donc, je ne sais pas si ma croyance a peut-être été moindre pour un de mes enfants. J'espère que non. voilà, en vous écoutant, je dirais qu'en plus, je vais pas débattre là-dessus, mais je cumule un petit peu toutes vos considérations, puisque je suis à la fois psychologue, maman de 5 enfants et catholique pratiquante. Donc en matière de croyance, si je l'ai passé beau, on pourrait débattre.
Bah écoutez, Virginie, voilà. J'aurais vous faire réagir, docteur Siméka, au témoignage de Virginie à l'instant. Homéopathie présentée comme premier traitement qui fonctionne sur 4 de ses enfants. Un seul a dû être opéré, donc par les voies classiques de la chirurgie. C'est un témoignage comme vous en voyez souvent.
Et c'est comme ça que ça devrait se passer tout le temps, effectivement. Le traitement le moins invasif en première intention, c'est logique. Et puis évidemment, on ne s'entête pas.
Bah, c'est logique si l'efficacité en effet est reconnue et si vous avez les moyens d'exercer ainsi.
Et si ça ne marche pas, on fait appel à autre chose. C'est la logique même, c'est ce que nous réclamons. Et effectivement, un éventuel et malheureux déremboursement irait complètement dans le sens inverse.
Alors justement, on va en parler avec Gilles Bonnefond qui représente les pharmaciens. Merci Virginie pour ce témoignage qui va nous éclairer encore pour les minutes qui suivent. Marie-France nous écrit de Trois-Monts. Elle est pour l'homéopathie. Tous les ans, son médecin lui donne des médicaments pour la grippe. Elle n'a jamais eu de grippe. Alors ceux qui disent que c'est pipeau, pour elle, ce n'est pas vrai. Si vous êtes anti, n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Je vais vous lire quelques réflexions sur Twitter également. Juste après la pause, Julie. Europe 1, Europe 1.
Débat sur l'homéopathie et ses consommateurs. Nous sommes avec le docteur Daniel Simeka, qui est médecin généraliste dans le Val-de-Marne et président de la Fédération française des sociétés d'homéopathie. Olivier Faure est également avec nous. Il est spécialiste de l'histoire de la santé, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon-Saint-Étienne. Et nous accueillons Gilles Bonnefond, qui est président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Bonjour Gilles Bonnefond.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans cet échange. Monsieur, vous n'êtes ni pour ni contre l'homéopathie à proprement parler, mais êtes-vous inquiet du déremboursement de ces produits homéopathiques qui pourraient intervenir d'ici à la fin du mois ?
Alors, je suis inquiet de deux choses. D'abord, du ton des débats qui est utilisé aujourd'hui avec des gens qui se traitent de charlatans, de sectaires, entre médecins. Je trouve complètement déplacé le niveau de ce débat. Tout le monde est monté dans les tours et je trouve ça inadapté quand on est en face de patients. En plus, on sait très bien que la médecine, la pharmacie, contrairement à ce qui peut être affirmé, c'est pas une science exacte. On est en face de l'humain et la réaction de l'humain, elle est individuelle. On n'est pas dans une équation mathématique. Donc faire du scientisme à tout prix quand on a en face des individus qui réagissent différemment par rapport à un traitement avec une composante psychologique, quel que soit le traitement utilisé, n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter d'un revers de main en disant la science, la science, la science. Ensuite, il faut trouver un compromis. Et moi, j'ai envie de faire redescendre tout le monde à un niveau pour trouver une solution. Et la solution, elle peut être trouvée en mettant l'homéopathie à un niveau de remboursement comme les vignettes oranges à 15%. La conséquence de mettre à 15% au lieu de mettre en vignette bleue comme aujourd'hui à 30%, c'est que le remboursement de l'assurance maladie sera égal à zéro, puisque pour chaque boîte de médicaments, dont chaque tube de granules, il y a une franchise de 50 centimes. Et donc, comme ces tubes sont pas chers, l'assurance maladie ne rembourserait rien, puisque la franchise absorberait tout le remboursement de l'assurance maladie. Par contre, l'avantage, c'est que les complémentaires santé peuvent continuer de rembourser. Et ça a un autre avantage, c'est que ça évite au laboratoire d'avoir toute sa liberté de fixer des prix. Et on voit dans des pays où ça a été déremboursé, le prix du tube granule des doses est passé de 2 euros et quelques à 8 euros.
C'est ce que vous craignez aujourd'hui en France, de la part de l'AMO.
C'est ce que je crains, c'est-à-dire que après la ministre, les pharmaciens, les médecins vont hurler, il y a une réaction extrêmement négative, en disant on a permis au laboratoire de multiplier les prix par 4.
Oui,
c'est ça le risque du déremboursement.
Et là, c'est l'usager qui est pénalisé pour vous et ça n'a pas beaucoup de sens.
Et je trouve que franchement, cette solution qui peut être qualifiée de temporaire, etc., mais qui permet d'apaiser des débats, moi je préfère que des patients qui ont des doutes sur l'allopathie, et je trouve ça non justifié, parce que l'allopathie rend énormément de services, bien évidemment et heureusement, mais il y a des personnes qui ont, je dirais, un choix un petit peu alternatif à l'allopathie. Je préfère que, s'il y a ce choix, ce soit avec un circuit médical et pharmaceutique, plutôt que d'être dans des circuits complètement en dehors, qui là peuvent entraîner des conséquences graves. Donc l'homéopathie aujourd'hui, elle est encadrée. Le médecin qui prescrit, il a des comptes à rendre au Conseil de l'Ordre. C'est un médicament et donc du coup, ça permet d'éviter, je dirais, des dérapages que l'on peut rencontrer dans d'autres circuits qui peuvent être le chamanisme, d'autres trucs comme ça, qui sont complètement incontrôlables.
On n'est pas dans la même
chose. Se développent, malheureusement.
Gilles Bonnefond, un petit message sur Twitter pour vous que va vous lire Julie.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse considérer l'homéopathie comme un médicament. Voir certaines choses non prises en charge par les caisses parce que la sécu est en déficit, alors que les boules de sucre de l'homéopathie sont remboursées, ça me met hors de moi, nous dit Caroline.
Vous avez commencé à répondre avec votre histoire de vignette orange, voilà. Mais voilà, il y a ce deux poids deux mesures aussi pour certains auditeurs.
Non, mais vous savez, un certain nombre de médicaments sont considérés comme non prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces, ça ne veut pas dire qu'il y a une inefficacité. Et quand ils sont considérés comme non prioritaires au remboursement, ils descendent dans un niveau de remboursement qui peut être la vignette orange.
D'accord.
Le fait que les prix soient bas pour l'homéopathie, environ 2 euros, fait que l'assurance maladie ne rembourse plus rien. Donc, on a répondu à ce que souhaite la ministre, on a répondu ce que souhaitent les pouvoirs publics. Ça fait à peu près 80 millions d'euros d'économie, donc oui. c'est bien, oui. La réponse est là. Par contre, on évite au laboratoire de multiplier les prix par 4, et je pense que c'est une position qui est raisonnable, et ça répond au tweet.
Voilà, bon, eh bien écoutez, merci Gilles Bonnefond, on suivra la décision de la Haute Autorité de Santé, qui devrait intervenir à la fin du mois, 28-29 juin, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Gilles Bonnefond.
C'est la ministre qui décide. C'est la ministre qui décide, au final.
C'est ça, sur recommandation ou pas. Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, merci beaucoup de cet échange et de ces précisions. On va se retrouver, je vais prolonger un petit peu ce tour de la question avec vous, messieurs, docteur Daniel Simeka et Olivier Faure. On a énormément de messages et je voudrais encore en énumérer quelques-uns au 39-21. A tout de suite pour la météo et l'info.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.